Cette semaine à Connaissez-vous, mon invité est Stéphane Pilon. Bonjour à tous, bienvenue à Connaissez-vous, toute nouvelle émission. Nouvelle semaine, nous achevons déjà le mois de mai. Le temps passe très vite. Le temps passe d'autant plus vite que mon invité, j'aurais aimé l'avoir dès les premières semaines. On en est déjà à la 13e semaine de diffusion. Et c'est aujourd'hui que ça se... c'est aujourd'hui que ça se fait. Il s'agit de Stéphane Pilon. C'est une personne qui n'a pas de problème de vision. Peut-être que le nom vous dit rien, mais peut-être que le nom vous dit quelque chose aussi si vous êtes des lecteurs de livres audio disponibles à BANQ qui sont lus par la compagnie Point par Point, parce que c'est à Point par Point que Stéphane et moi, on s'est connus. Alors peut-être que son nom vous dit quelque chose. Tout d'abord, bonjour Stéphane.
Bonjour Martin.
On ne fera pas une introduction à tout finir, là, à tout casser. Mais bon, on s'est connus chez Point par Point. Mm-hmm. Tu es le gestionnaire du département. Ah, je suis fou, hein? Je ne sais même pas ton titre.
On n'a jamais vraiment eu de titre. Ça change pas mal chez Point par Point. Il faut faire attention au titre qu'on se donne. Là. Moi, je me vois comme un gestionnaire dans le fond parce qu'on est... On était plusieurs employés, maintenant je suis seul à gérer dans le fond le département. Fait que tu pourrais dire gestionnaire.
Puis tu as les lecteurs quand même à oui. gérer puis tout ça.
À gestionner,
oui. À gestionner.
ouais.
Stéphane, oui. J'aimerais ça qu'on commence par le début, tu le sais.
Oui.
Un peu qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire.
Mm-hmm.
Toi, Stéphane, t'es né en 1970. ah, non, c'est pas ça.
Non,
ça pas. Ça a l'air drôle. Non?
En 40.
En 40? Ah! Excusez, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais il est tard, on est fatigué.
Oui.
on est fatigué.
Ouais.
Non, sérieusement, t'es né en 1980.
Oui, ouais. C'est ce que j'aime d'être né à cet âge-là, c'est pour se souvenir de ton âge. Quand on vieillit, on a des plans de mémoire.
Mm-hmm.
Donc 2000, 20 ans, 2001, 21, donc c'est facile.
Ça suit, oui.
Ouais.
Mm-hmm. Donc tu as 37 ans.
Oui.
Voilà.
Quasiment 40.
Quasiment 40.
Ça sort bien vite.
Parce que le temps passe vite, hein?
Oui.
Et tu es né où, toi, Stéphane? Tu es né à Montréal?
Oui, en fait, à la Chine.
Ah, OK.
Oui.
À la Chine.
À la Chine. Dans le fond, j'ai demeuré bonne partie de mon enfance à Dorval, en fait. Mais l'hôpital qu'on avait été, que je suis né, c'est à celle de la Chine.
Et est-ce que tu as demeuré longtemps dans cette... C'est-tu un arrondissement de Montréal?
Oui, mais je sais pas, je suis pas trop au courant de comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a eu une année que ça s'est rassemblé.
Oui, avec toutes les fusions, là.
Oui.
Ouais.
Mais oui, j'ai resté un bon bout, une partie de mon enfance, dans le fond. Là, je sais pas si on va vers ça, mais mes parents se sont séparés assez jeunes.
Ah, puis... On va où tu veux.
OK. bon, on fait une petite gigote, on va danser. On va... non, mais dans le fond, c'est ça, c'est que mes parents se sont séparés étant très jeunes. Puis ma mère restait à Montréal, mon père restait à Dorval. Puis c'était une garde partagée, si tu veux, dans le fond. Puis mon père avait la garde primaire. Je sais pas si c'est comme ça
qu'on dit. Ah, OK. La garde de...
J'étais majoritairement
chez ton père?
Oui, c'est okay. ça. OK. C'est ça. Donc, j'ai passé une bonne partie de mon enfance là. Puis, à Montréal, c'était une fin de semaine sur deux, là, pas plus que ça.
OK.
Ça, je pourrais te compter aussi des farfeluteries qui se sont passées là. Mais non, c'est ça. À Dorval, une bonne partie de mon enfance. Puis, c'était assez intéressant comme enfance parce que c'est dans un quartier industriel. Entre la 20 et puis, sur le bord de l'autoroute, sur le bord de l'hôtel, le bord de l'aéroport. Encerclé d'un chemin de fer juste à côté d'une compagnie qui faisait de la peinture, qui déversait leurs déchets dans les
toxique.
Égouts. Ouais. ça sentait là, l'été, là, il fait chaud, il faut que tu ouvres les fenêtres. C'était quelque chose.
OK, mais en quoi c'était intéressant?
Ben intéressant, mais dans le sens, c'est pas typique d'une enfance normale. Là, j'avais pas beaucoup d'amis, pas grand, je pense qu'il y avait peut-être 6-7 maisons dans ce coin-là, c'est tout. Le reste, c'était tout des entreprises, là, des bâtisses, des entrepôts, des choses comme ça. Puis, mon seul hobby, c'était de jouer à la balle contre le mur, justement, de la compagnie qui, qui faisait la peinture.
Qui polluait.
C'est ça. Puis, c'était assez intéressant parce que, c'est ça, tu peux aller, mettons, faire l'épicerie, tu vas aller au parc, tu vas aller au dépanneur, mais tu n'avais pas le choix de passer les tracks de train, là, tu sais. Puis, des fois, tu arrivais, tu voulais aller chercher de quoi au dépanneur, tu étais tout petit, puis là...
Le train était là.
Le train est là, puis il est arrêté, donc, tu sais, il faut que tu attendes un 20 minutes avant de...
De pouvoir passer. Ouais. Oh, mon Dieu, OK. Ouais. Puis toi, t'es enfant unique, je pense.
Oui, hein? C'est ça.
Ça fait une autre dynamique.
Oui, c'est ça. Il y a eu des pour des contre. J'étais supposé d'avoir une sœur, mais une grande sœur, en fait.
Puis, OK.
Maman s'est fait avorter, c'était son premier enfant. Puis c'est ça. Fait que j'aurais eu une grande sœur. Je pense que ça aurait tout changé la dynamique de mon existence, en fait. Mais non, c'est ça. Puis là, oui, enfant unique. Mais ça allait les bons côtés, parce que bon, quand c'est Noël, t'as beaucoup de cadeaux, t'es gâté par toute ta famille. Puis, ça, c'est...
Les moins bons côtés, c'est que t'as pas de frères et sœurs pour t'amuser.
C'est ça, exactement.
OK. Puis t'avais pas beaucoup d'amis. À l'école, c'était comment? Est-ce que tu as des souvenirs un peu? Tu dis, bon, je jouais à la balle sur le... Mais à l'école, est-ce que t'avais des souvenirs un peu de... Je sais que je vais peut-être vite, là, mais tu sais, sur ce que t'avais envie de faire plus tard, tu sais, est-ce que...
La dynamique aussi, encore, l'expérience que j'ai eue aussi, c'est que j'ai pas... J'ai certains problèmes de vue aussi, là, la myopie, quand même assez prononcée. Ben, c'est pas extrême, là, mais quand même. Puis l'affaire, c'est que personne s'en est rendu compte avant que j'ai 12, 13, 14 ans, je me souviens plus exactement. Donc, je voyais très, très flou. Toute une grande partie de mon enfance. Donc,
pensant que c'était normal.
Oui, pensant que c'était normal. Donc, c'est ça. T'sais, je donne un exemple vite fait. J'ai eu la chance deux de mes tantes, en fait, de m'emmener à Walt Disney quand j'étais petit. Je pense à 8-9 ans. Une de mes tantes travaillait à Air Canada. Donc, on avait eu des billets quand même.
À meilleur prix.
À meilleur prix, c'est ça. Donc, ma tante m'avait payé ça. On s'était rendu là. Puis. C'est beau, c'est tout ça, mais moi, je te dirais que 4-5 pieds de moi, là, c'est flou. Là. C'est comme
à ce point-là? Okay.
Oh oui. Donc, tu es assis à la table, tout le monde à la table en train de souper à Orlando, puis là, un gros Mickey Mouse qui s'approche de toi tranquillement, puis là, excuse, tu te mets à broyer parce que, tu sais, ça
fait peur. Tu le vois comme à la dernière minute, puis c'est épeurant un peu.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Puis là, comment que... Qui s'est rendu compte de ce problème-là?
Ben, c'est à l'école, en fait.
Oui.
Là, à un moment donné, je crois, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, mon père, je ne sais pas si on peut dire ça là, dans ton émission, mais c'est ça, mon père, il a eu ma garde, dans le fond, parce que ma mère, c'était toute une histoire. Là, on va regarder ça privé, mais mon père, il a eu la garde, dans le fond, puis... c'est ça, là. J'ai essayé d'avoir... C'était quoi ta question?
Comment le problème de vision...
Oui, c'est vrai, excuse-moi. mon père, c'est ça, c'est... Il avait... C'est dommage un peu, dans le fond, son histoire. Il s'est fait laisser par ma mère, puis bon, il a tombé un peu dans l'alcoolisme, tout ça. Puis, mais c'est que il s'en est pas rendu compte, puis jamais été faire passer de test, parce que moi, j'avais pas vraiment d'idée que, tu sais, je voyais un peu moins, tu sais. Donc, c'est vraiment au primaire, à l'école, qu'on m'avait fait passer un test parce que j'étais assis, peu importe, parce qu'ils te placent en ordre de nom de famille, hein, dans les bureaux quand tu es dans la classe. Puis, j'avais tout le temps de la misère avec mes études.
Tu étais toujours en arrière, étant donné ton nom.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, je voyais jamais vraiment au tableau. Quand que les professeurs, ben, un ou deux des professeurs ont réalisé que je plissais tout le temps les yeux, que je voyais pas ce qui se passait, ils avaient décidé de m'asseoir au bureau à l'avant. Puis, même assis à l'avant, je te mens pas.
Tu avais de la difficulté quand même.
Oui. Donc, c'est là qu'éventuellement, on m'avait... C'était un genre d'optométriste de l'école, si tu veux. Mm-hmm. C'est un test minimal. Mais ils ont vu que j'avais vraiment besoin de lunettes.
OK. OK.
Ouais.
Et là, les lunettes sont arrivées?
Non.
Non? Ah, OK.
Non, c'est ça. C'est côté famille, c'est ça. C'était pas toujours évident parce que, bon, ben mon père... Il travaillait plus, il avait tombé un peu dans la dépression, tout ça. Donc, c'était quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Puis,
ça, tu n'as pas eu de lunettes?
J'ai pas eu de lunettes. Ça a pris vraiment... ça a pris du temps. C'est au secondaire que C'est l'école, en fait. C'est Bob Cadieux, si t'écoutes ça, bonjour. Je sais pas s'il écouterait ça. Hommage à Bob Cadieux, c'était vraiment un bon gars. C'était un genre de, si tu veux, un travailleur social. Je sais pas le titre exact, mais c'était c'est la personne que t'allais voir quand t'as des problèmes ou quand tu te battais avec quelqu'un, puis là, tu t'allais voir là, puis là, il essaie de régler les problèmes, puis il était cool, là,
OK, ben ouais, ça pouvait être quasiment ça, là.
Un genre de travailleur social, ouais. Ouais. Puis, c'est ça, éventuellement, ben, c'est ça qu'il avait réalisé que j'avais besoin de lunettes. Donc, il m'avait emmené, il dit, viens avec moi. Puis là, il m'a emmené dans le bureau où il y avait les secrétaires, les directeurs, tout ça. Il était en arrière, il dit, oh, je pouvais avoir accès au coffre. Il était au gros coffre, il y avait un gros coffre-fort en arrière, ils ont débarré ça, il a pris de l'argent, puis là, je suis parti avec lui. Puis, il m'a emmené à l'autométrice. Puis, c'était 100$. Je sais pas le montant, mais c'était la part la moins chère possible, tu sais. Donc, c'était les grosses lunettes, tu sais, un peu comme à bas, là, tu sais, des grosses lunettes comme de soleil, si tu veux. Là.
OK.
Puis moi, ben, tu sais, j'étais pas vraiment très populaire au début du secondaire, j'étais vraiment pas populaire. Là. J'avais de la misère à me faire accepter des problèmes, si tu veux, de l'acceptation ou de moi-même, en fait, tout ça. Puis,
OK. Mais là, est-ce que les lunettes ont quand même fait en sorte que.
Ouais.
Que tu voyais mieux, puis oui. Que ça allait mieux quand même.
Mais ça fait de son feu, parce que, comme je te dis, vu que j'avais de la misère à me faire accepter, tu sais, Bernic.
Ça l'a amené d'autres...
Oui, d'autres problèmes que... c'est ça, j'aimais mieux moins voir, puis pas me faire, tu sais, taquiner que...
OK, mais ouais. Revenons, ouais. Dans ce cas-là, à la question de base, là. Mm-hmm. As-tu eu des idées, à un moment donné, de qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Est-ce que tu...
Je te dirais que... En tant qu'enfant, j'ai pas... Tu sais, on voit tout le temps ça, bon, les enfants. Je veux être astronaute,
ouais, docteur. Pompier,
ouais. Ouais. Mm. Étant petit, j'ai jamais vraiment eu d'ambition ou de rêve en tant que tel. C'est vraiment au secondaire, quand j'ai commencé à faire de la musique. Puis j'ai été en famille d'accueil, si on pourra en parler tout ça, si tu veux, plus tard. Mais c'est ça là, que j'ai vu que c'était vraiment la musique qui me rendait heureux, en fait.
OK, ça, que ça, c'est arrivé, tu dirais, t'avais quoi, 14 ans?
Ouais, je te dirais 14 ans, à peu près. Secondaire, ben dans le fond, si tu veux que j'en parle, là, c'est ça, c'est secondaire 1, parce que secondaire 1 et 2, t'avais un professeur pour la musique. Elle faisait secondaire 1 et 2. Puis après ça, t'avais un autre professeur pour 3, 4, 5. Puis 1, 2, c'était flûte à bec. Puis, secondaire 3, 4, 5, c'est là que tu avais des instruments.
OK.
Puis, donc, j'ai commencé avec la flûte à bec, tout ça.
Nous autres, c'était le xylophone.
Xylophone? Hey, t'es chanceux, Seigneur. Ça, c'est cool.
Xylophone en secondaire 1, guitare en secondaire 2.
Guitare?
Oui.
Mon Dieu.
Puis, okay. En secondaire 3, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, là, c'est de Stéphane qu'on parle.
Non, mais c'était...
Mais, en secondaire 3, on avait le choix de poursuivre la guitare.
OK.
Ou de s'en aller dans les... tu sais, comme dans le... Les instruments
avant
puis le oui.
Ah oui.
Le je me souviens plus comment ils appelaient ça, pas l'harmonie là, mais la
oui, l'harmonie.
L'harmonie.
Oui,
ça,
oui.
C'est ça. Ouais.
Ah, c'est cool. Fait que ça veut dire tous les enfants, tout le monde avait des xylophones pour commencer.
En secondaire 1, quand tu choisissais musique, c'était xylophone.
Fait que tout le monde avait leur xylophone.
Oui.
Puis quand c'était la guitare, tout le monde avait leur guitare.
Tout le monde avait
ça,
leur
c'est
guitare.
Le fun. Ça,
oui.
C'est le fun, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Ça c'est intéressant.
Mais là, vous aviez votre flûte à bec.
Oui, mais ça n'a pas fait long feu, parce que moi, je trouvais ça plate à mourir. Puis c'est là que j'ai eu comme un peu, si tu dis, je ne sais pas, les anges ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, quelque chose qui te pousse vers une autre direction. C'est là que la professeure avait réalisé que, bon, je m'ennuyais un peu. Donc, elle me dit, t'aimerais-tu ça jouer du piano? Donc, j'étais le seul qui était au piano. Elle m'a montré les trois accords, là, tu sais... Puis là, j'avais tranquillement compris comment la distance entre les notes. Une note, un accord majeur, un accord mineur. Puis, c'est ça. Fait que là, je l'accompagnais, je faisais le piano alors que tout le reste des élèves...
C'était un peu comme une révélation, là,
oui.
Le piano, à ce
oui.
Moment-là.
Ah, oui, certainement. C'est... Oui.
Ça fait que t'as eu une enfance, on peut dire, peut-être plus ou moins heureuse, mais t'as eu quand même des gens sur ton chemin qui t'ont comme... amené dans des directions...
Oui. Puis justement, parlant de ça, il y avait... tu parlais d'harmonie tantôt.
Oui.
Ça, c'est une affaire que je me suis embarqué éventuellement aussi dedans. Puis c'est ça, c'est je pratiquais le piano, puis le truc, c'est que à ce moment-là, je restais chez mon père. Puis bon, avec les problèmes d'alcool, tout ça, tu sais, je voulais être n'importe où ailleurs que chez moi. Puis à cause... de l'harmonie, les élèves, c'est le soir après l'école qu'ils pratiquaient, tu sais, secondaire 3, 4, 5. Secondaire 1, 2, il n'y avait pas d'harmonie encore. Il y avait des concours d'élèves, si tu veux, de musique. Okay. Mais l'harmonie, c'était vraiment à partir de secondaire 3 jusqu'à secondaire 5.
Okay.
Mais moi, ce que ça me permettait de faire, c'est pendant qu'ils pratiquaient dans le local d'à côté, je pouvais rester après l'école, puis m'installer sur le piano, puis pratiquer, puis pratiquer, puis pratiquer. Je mettais des écouteurs, tout ça. Puis tu parlais tantôt de gens qui ont comme changé, dans le fond, comment tu pourrais dire, dans le fond, non?
Peut-être ton destin un peu plus...
c'est ça.
Un peu plus sombre, là, je
dirais. Oui, mm-hmm. Exact. J'ai Serge Nollet, encore là, si Serge t'écoute, appelle-moi, j'attends ton appel. Serge Nollet, un merveilleux homme, je vais vous expliquer l'histoire après, là, mais c'est ça. Donc, je pratiquais, j'étais là quasiment tous les soirs, tu sais, je voulais pas, puis c'était une bonne excuse, là, je donnais à mon père, écoute, il faut que je pratique, je suis à l'école, puis là, ben, je rentrais pas trop tard, mais je restais quand même là.
Puis c'était vrai quand même.
Oui, puis c'était vrai, c'est ça. Donc, c'était quand même, c'était correct. Puis éventuellement, le professeur Serge Nollet, qui était secondaire 3, 4, 5, il me voyait souvent que j'étais tout le temps là, tout seul, sur le piano, avec mes écouteurs, en train de pratiquer tout ça. Donc, il y a eu un certain intérêt envers moi, puis c'est là qu'il a parlé à la professeure, puis, tu sais, ça comme, tout a changé de là, là. Tu sais, il a essayé de m'inclure dans des trucs, puis c'est ça. Puis, encore pire que ça, ou mieux, en fait, que ça, c'est, ce professeur-là, il est devenu mon père adoptif.
OK.
Oui, donc, bon, tu sais, travailleur social, il te rencontre encore, blablabla, bon, t'aimerais-tu ça aller en famille d'accueil? Là, moi, j'avais la chienne, hein, parce que mon père, tu sais, quand une figure, là, tu sais,
Ça reste ton père.
Ça reste mon père, mm-hmm. Tu sais, fait que là, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, juste l'idée de penser à quitter la maison, il va me retrouver, il va...
ouais, il va m'assassiner. Il va être fâché,
là. Ouais. Donc, j'ai dit non, tu sais, j'ai dit je peux vraiment pas, tout ça. Puis, ils ont quand même persisté dans mon dos, dans le fond, parce qu'ils voyaient que ça allait pas. Puis, un soir, Serge Nollet m'attendait au bureau de Bob Cadieux, de mon travailleur social. Puis, il me dit, garde, écoute, tu sais, juste aller voir, il va te montrer un peu où ce qu'il reste, va te montrer sa femme, tout ça. Tu sais, juste ça, vous pouvez jaser.
Voir l'environnement.
L'environnement, ouais. C'est ça. Okay. Donc, là, j'avais embarqué dans sa voiture, puis on est descendu chez eux, il restait à Villemort dans un beau petit coin. Dans un bloc que ça appartenait, je crois, à la mère à sa femme. Puis, c'est ça, là. Tu m'as montré, il y avait un petit sous-sol avec des pianos, un ordinateur. Puis, c'est ça, on a jasé tout ça. Sa femme était bien, bien gentille. Elle était professeure, elle aussi.
OK.
Primaire, je pense, elle enseignait le français. Puis, c'était l'amour on first sight, là, comme on dit. Je sais pas trop. Là, moi, je les avais bien aimés. Puis, c'est sûr que, bon, l'angoisse, l'anxiété, la peur, parce que c'est quelque chose de nouveau. Tu sais pas comment mon père va réagir. C'est toute une nouvelle vie, là.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Finalement, bon, on avait passé en cours, puis ça n'a pas pris de temps, puis ils ont eu ma garde. Donc, j'ai resté là un an de temps.
Okay.
Ça a changé ma vie. J'ai eu des verres de contact. Ouais, ça... C'est verres de contact, puis tu sais, parce que tu sais, lunettes avec les cheveux peignés sur le côté, là, ça fait un peu nerd, là.
J'ai tellement de la difficulté à t'imaginer comme ben pas comme pas du côté look,
ouais.
Mais du côté comme impopulaire.
Ouais. J'étais quelqu'un de très 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 gêné, puis ça je pourrais t'en compter aussi là, mais il y a des filles qui s'intéressaient à moi puis qui démontraient que s'intéressaient à moi, mais j'étais tellement gêné,
mm-hmm.
que
je faisais rien ça, là.
C'est ça. Mm. Puis même à un moment donné, j'avais rencontré, tu sais, bon, tu prends l'autobus, tu retournes chez toi, là, je suis rendu déjà à 16, 17, 18 ans.
C'est correct.
Je suis dans l'autobus, je rencontre quelqu'un, on jase un peu, avec la fille, tout ça. Puis ça reste comme ça. Puis je m'en vais. Tu sais, moi, je suis bon, ben, en tout cas, bonne journée, tu sais, mon arrêt est là. Ça reste là. Mais j'imagine que quelqu'un d'autre, un teenager de mon âge, aurait fait, oh, ouais, c'est quoi ton numéro?
J'aurais peut-être profité de l'occasion, là, ouais, pour collecter un numéro. Puis,
d'après moi, c'est peut-être ça que la fille voulait, parce que je l'ai recroisée par après, tu sais, que, mettons, une semaine plus tard, elle était avec quelqu'un, puis là, ben, salut, tout ça. Là. Puis là, elle a dit à son amie, elle dit, c'est un de ceux-là, tu sais, en voulant dire, il est bien cute, mais il est un petit peu son dessin, là, tu sais, il faut pas vite, ou je sais pas trop, là. C'est juste parce que moi,
T'as pas sauté sur l'occasion.
C'est ça,
là.
C'est ça.
Okay.
J'ai jamais été de ce genre-là. Fait que c'était pour moi. T'sais. J'avais des principes, comme pas le premier soir, peu importe. Des affaires de même.
Oui, mais je pense que tu es une personne encore aujourd'hui très de principe. Probablement une des personnes le plus de principes que je connaisse.
Mon Dieu. OK.
Je pense.
C'est quasiment triste.
Non, c'est pas triste. Moi, je le dis pas d'une façon triste.
Non, non, je sais. Bien.
Mais je veux dire, on n'a pas peur de se faire poignarder dans le dos par toi parce que t'as des principes, tu sais, t'as des valeurs.
Oui.
Oui.
Je parle quand même dans le dos du monde, là, comme
toi. Oui, oui, mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas des conséquences graves, là.
Oui.
Mais par la suite, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais là, bon, t'as eu comme la musique comme révélation.
Oui.
Et là, qu'est-ce que ça t'a apporté dans les années qui ont suivi? Est-ce que tu t'es dit, je veux faire carrière là-dedans? Est-ce que tu avais des idées? Est-ce que tu as commencé à avoir un peu des idées?
Oui, je te dirais un peu comme tout le monde, les premières idées, je pensais pas, tu sais, dans le fond, je pensais pas vouloir travailler, disons, comme technicien ou enregistrer, mettons, Céline Dion dans un studio. Ça, c'était pas dans ma tête, là. À ce moment-là, c'était plus, je voulais composer, j'avais commencé à composer de la musique. Puis mon but, c'était de faire de la musique, puis peut-être avoir un band, jouer avec du monde. J'avais commencé à jammer, comme on dit, avec des amis, de différentes personnes. Puis ça m'a aidé, justement, à rencontrer beaucoup plus de gens.
Puis à te déjeuner aussi, oui. J'imagine?
Oui, exactement. Parce qu'il y a quand même une... c'est sûr qu'au début, bon, tu sais, il faut que tu aies un petit peu d'expérience, là, que tu saches un peu jouer ton instrument. Mais c'est la musique, ce qui est intéressant, c'est que quand tu joues avec des gens, il y a une certaine... C'est comme les fréquences de chacun des instruments qui jouent ensemble créent une certaine entité, si tu veux. Puis, si tu comprends un peu, tu sais, fait que tu connectes, veux, veux pas, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de dire, moi, j'aime les Pokémon. Non, ouais, ben moi, je trouve les Pokémon, c'est niaiseux, j'aime bien mieux Dragon Ball Z. Puis là, t'as un certain conflit de la musique, c'est... On joue ces mêmes accords, puis...
C'est comme un peu universel.
C'est ça, exactement.
Les gens qui jouent de la musique, c'est parce qu'ils aiment la musique.
Exact.
Vont jamais aller dire des pas des méchancetés, là, mais
ouais.
Ils sont comme en harmonie tous ensemble.
Là. C'est ça.
OK.
Ben, encore là, c'est drôle. T'sais, je veux dire, bon, c'est sûr que des fois, tu peux quand même encore te t'astiner.
Avoir des divergences.
Oui, c'est ça. Okay. Ton solo, il est trop long. Tu sais, mettons, là, Jens, ouais. Là, ouais. Un de mes chums qui joue de la guitare. Salut, Jens, en passant, c'était cool. Mais c'est ça, lui, il est super écœurant, la guitare, mais c'est des solos de 2 minutes. T'sais, donc, c'est le trois quarts de la toune. Et des fois, c'est comme tu essaies de... Bon, on coupe ci, on coupe ça. Fait, ou tu vas aller vers une direction, l'autre personne va... T'as quand même des trucs qui arrivent des fois.
Ouais, ouais.
Mais en général, c'est...
Vous jouez pour la musique.
Oui,
pour la musique, ça, là.
Exactement.
Mm-hmm.
Exact.
Et là, bon, tu dis... Parce que, tu sais, je me souviens pas, puis je suis sûr, je vais te poser la question, puis tu vas dire, bon, question Pierre.
Bon, ça y est.
Ça commence.
Je quitte les lieux sur le champ.
Non, je pense pas que ce soit assez pour que tu quittes.
Ah, OK.
Mais si je te demande, en quelle année tu as commencé à travailler chez Point par Point?
Ah, oh, mon Dieu. Ah ouais, je vois où tu vois, là. C'est ça. Ce curriculum, mon numéro d'assurance sociale et tout, là. Mais je te dirais, ben ça, on s'astinait, je pense, oui. Au début.
Ben moi, oui, parce que même, honnêtement, ouais. Je m'en souviens pas, là.
Ben, il me semble que c'était...
C'est 2009 ou 2010.
Ah, mon Dieu. Je disais tant 2007. Non, c'est vrai, j'ai été en cours en 2007, mais mon cours de sonorisation. Oui, d'après moi, c'est 2009. Été 2009, si je me trompe pas. Puis j'avais... C'est ça, là, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé, en fait, en tant que lecteur.
Oui. Oui. Parce que... Ben, je sais pas si tu veux à quel point tu veux le raconter.
Ben, ce qui est drôle, c'est que...
Il y a eu deux tentatives pour toi de rentrer chez Point. Oui. Par Point. C'est ça qui est comique aussi.
Oui, ça, c'est ce qui est drôle. Parce que je me souviens... Éric Ouellet, je le salue s'il est en onde. C'était mon collègue et ami, tu sais, comme je sais pas quoi, le camarade de classe, si tu veux, aussi, j'ai été suivre mon cours en sonorisation. Donc, on s'entendait quand même assez bien, tout ça. Puis, c'est ça, lui, il m'avait référé. Il avait été appelé par Point pour travailler là. Ça ne l'intéressait pas. Je ne sais pas si c'était du salaire, peu importe c'était quoi, là. Mais ça ne l'intéressait pas. Donc, il m'avait appelé, puis il m'avait dit, si ça t'intéresse, il cherche quelqu'un dans l'audio. Puis, dans ce temps-là, il y avait Vincent qui était là, qui était le gestionnaire du département, si tu veux, le superviseur, tout ça. J'avais été, je m'étais déplacé. pour une entrevue, puis ça s'était bien passé. On m'avait montré comment que les logiciels fonctionnaient, tout ça, puis ce qu'il y avait à faire, puis tout ça, monter les livres, puis c'était quand même intéressant. T'sais, c'était pas dans le domaine que je voulais aller, moi c'était vraiment la musique, mais c'était déjà un début, c'était dans la sonorisation, puis bon, tu sais. Puis, avec la distance, parce que là, j'étais encore à Montréal, tu sais, là, maintenant, je suis rendu sur la Rive-Sud, mais dans le temps, j'étais à Montréal, là, j'avais calculé les montants de ça, j'ai dit non, tu sais, parce que par le temps que j'ai terminé mon cours, parce que dans la sonorisation, tu t'endettes de 15-20 000 $, puis tu sors de là, puis tu travailles chez IGA, tu travailles dans un entrepôt. C'est, faut que tu partes une business ou faut que tu sois vraiment, vraiment chanceux. Tu vas pas, parce que tu as un diplôme, travailler dans un studio. Malheureusement, je l'ai appris par la suite. Donc, tu es endetté, puis là, mais tu essaies de travailler. Donc, j'ai eu d'autres jobs entre-temps.
Oh oui, parce que tu parles par expérience, là.
C'est ça. Puis, je travaillais déjà dans des entrepôts, contre-maître, tout ça, à gérer du monde avec les camionneurs, puis les conducteurs surélévateurs. Puis, c'était des salaires quand même assez intéressants. Puis, là, j'avais tombé, je pense, sur le chômage pendant un certain temps. Donc, là, quand j'avais été pour le son, là, j'étais vraiment intéressé, mais j'avais finalement refusé.
Mais le côté drôle de l'affaire,
ouais,
juste pour être sûr que ceux qui nous écoutent situent bien, c'est que si tu étais entré chez Point par Point à, ouais, ce moment-là, bon, t'aurais été un peu... Bon, parce que Vincent est parti par la suite,
ouais,
t'aurais été déjà comme un peu au top là, du ouais, département.
Oui, exactement. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai refusé. Puis, j'ai appris par la suite que Eric Ouellette avait
fait une deuxième tentative aussi et qu'il était rentré.
Oui, finalement, il avait accepté le poste. Parce que c'est lui, il m'avait rappelé encore puis il m'avait dit, si tu cherches une job, on a besoin de lecteur. Fait que là, c'est pour ça que je suis rentré en tant que lecteur. Là, j'avais dit, ouais, ben lecteur, c'est quoi, puis tout ça, je suis pas sûr que, tu sais. Mais finalement, c'est ça. J'ai commencé en tant que lecteur. J'ai fait ça pendant, je me souviens pas, pas bien ben longtemps, quelques mois. Puis, c'est parce que c'était mon emploi à temps plein.
C'est ça, là. C'était vraiment ça que tu faisais pour gagner ta vie.
C'est ça.
C'était de lire toute la journée.
5 jours semaine.
Dans une cabine.
Oui, exactement.
Et malheureusement, pour toi, ben, tu fais partie de ceux qui ont essayé puis qui ont moins trippé sur la chose.
Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Parce que c'est quand même intense de lire... merci beaucoup. On a des brownies, gracieuseté, ma copine.
Bonjour, la copine.
Bonjour.
Merci beaucoup. Mais c'est ça, c'est que lire dans ton lit un livre intéressant, c'est une chose, mais moi, à la base, j'aimais déjà pas lire. Il fallait qu'il y ait des images ou que ça soit technique. Parce que les yeux me croisent. Là. Quand je lis 2 lignes, 3 lignes, je me souviens plus qu'est-ce qui était dans les 4, 5 lignes avant. Là. Donc, de lire en plus à voix haute, 8 heures d'affilée, 5 jours sur 7, c'était quand même assez intense. Là, comme, puis, c'est ça, j'ai voulu abandonner souvent. Là. Ça, chaque nouveau livre, disons, après un mois, là, chaque nouveau livre, c'était mon dernier. Je me disais, OK, c'est mon dernier, parce que la voix... J'étais plus capable, j'étais épuisé. C'était très épuisant.
Sauf que ce qui est plate,
mm-hmm,
c'est que tu as une très belle voix.
Ah, oh, merci, merci.
Puis les livres que tu as lus.
Je sais quoi.
Ben moi, qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, je suis pas payé pour dire ça, là. Non, non, mais les livres que tu lisais,
mm-hmm,
je veux dire, on entend toujours comme un sourire dans ta voix. Tu sais, on oui, peut pas se, on peut difficilement s'imaginer à quel point que tu détestais ça.
Non, c'est ça. C'est que je me donnais quand même à fond, puis...
Avec un résultat, là.
Oui, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, tu dis qu'on entend un sourire dans ma lecture... Ça m'a mis dans un problème, en fait, parce que un coup que j'étais engagé, là, on en parlera, là, mais un coup que j'étais engagé, on a eu, ça arrive des fois, une fois de temps en temps, que, bon, tu sais, tu reçois des plaintes.
Oui, OK, c'est là que tu t'en vas.
Oui, ça arrive des fois que tu as des plaintes sur des livres. Ça se peut que, bon, il y a de quoi qui est arrivé, une page qui est corrompue ou un mot qui a été coupé, quelque chose comme ça.
Une plainte à propos de quelque chose plus de technique.
C'est ça.
Uh-huh.
Puis, il y avait eu une plainte. Là, je rentre un matin. Là, on parle, je suis déjà rendu que je travaille dans le département.
Oui, oui.
J'ai reçu un courriel du grand boss, puis il dit « Ah, je t'ai renvoyé le courriel, là, on a eu une plainte de la BNQ. » Bon, OK, je lis le courriel, puis là, c'est bon, ben tel livre, la voix, je sais pas trop. C'est un vieux monsieur, là, il avait fait une plainte sur...
C'était un livre religieux.
Oui, puis c'était quelque chose de religieux, de sérieux, puis justement, d'après moi, parce que la façon dont je le lisais, j'avais toujours un sourire, c'était triste, mais j'avais quand même tout le temps...
Ça fitait pas ça avec pas. Le livre.
C'est ça. Donc, tu sais, c'est pas toujours... Ben, c'est une seule plainte de tous mes livres que j'ai lus, tu sais. Donc, c'est quand même pas si pire, mais...
Puis en plus, c'est que ils ont transmis la plainte de l'abonné, mais sans nous demander de le refaire.
Non, parce qu'il n'y avait pas d'erreur en tant que telle, ou...
C'était comme une personne qui a décidé que lui, il aimait pas... Il n'aimait pas la voix qui avait été prise pour...
Il aurait fallu engager un prêtre. C'est qui?
Bonjour, bienvenue en ce dimanche, jour du Seigneur. Jean, psaume 24, verset 12. C'est dans ce genre-là. Puis...
Ben, faire des plaintes sur les voix, c'est très délicat.
Oui. Je me souviens, ça m'avait très blessé. J'étais en furie.
Oui, puis, parce que je m'en souviens.
Peut-être même un petit cri, là. Tabarouette. Qu'est-ce que c'est ça? Mais...
Mais pas tabarouette.
Non, c'est ça. Tabarnouche. Mais bon, c'est ça.
Mais parlons un peu de quand tu as changé de fonction.
Oui. Donc, dans le fond, c'est ça. J'étais lecteur, puis comme je disais, j'étais rendu pas mal à bout, épuisé. Puis, j'avais commencé à avertir mon collègue Eric que c'était pas mal mon dernier livre, que j'étais vraiment rendu vraiment au bout du rouleau. Puis... Je veux dire, il y a beaucoup de travail dans le département audio chez Point par Point. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement débordé que Vincent, qui était le superviseur du département, il était descendu me voir à un moment donné. Puis, il me dit, est-ce que ça te tenterait de travailler en haut? Mais ce qui était drôle, c'est qu'il ne se souvenait pas, quand il m'a engagé comme lecteur, que je l'avais rencontré un an précédent. En tout cas. Mais, c'est ça. Donc, on m'avait monté en haut, on m'avait réexpliqué les logiciels, tout ça. Puis, finalement... quand j'ai eu terminé mon livre, j'ai tout de suite monté en haut parce qu'il était vraiment dans le jus. Là. On a des grosses périodes très achalandées. C'est une personne de plus, c'était pas de trop. Donc, à ce moment-là, j'étais rendu technicien dans le département audio. Donc,
et là, tu ne faisais plus de lecture. Là.
Non, mais ça arrivait quand même encore. Des fois, on était tellement dans le jus où ce que... Les documents, là, disons, RHDCC, l'ARC, tu sais, des fois...
OK, c'est... mais t'en fais encore aujourd'hui.
Oui, des fois, malheureusement. Oui, des fois, t'es tellement débordé, puis c'est les tournures, les échéanciers sont tellement courts. Des fois, bon, il n'y a plus personne qui est disponible, tout le monde est en vacances, puis il faut que ça sorte là. Donc, c'est des petits documents, là, tu sais, 6, 7, 8 pages, donc je vais...
C'est ça, lire. Mais tu te rembarques plus dans des romans.
Oh, là, mon Dieu, non.
Hé là là!
Ouais.
Et le reste du temps, ton travail, ça consiste en quoi? On va essayer de prendre quelque chose que je pense la majorité des gens connaissent, là. C'est les livres de la Grande Bibliothèque, livres de la BNQ.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste la production d'un livre audio?
Bien sûr! Je veux démystifier aussi le mythe où ce que les gens, parce qu'on en reçoit des fois autant de la part des lecteurs que des gens qui nous appellent, qui nous demandent des demandes spéciales de livres. Est-ce que vous pourriez produire ce livre-là prochainement? Puis,
c'est pas nous qui décidons.
C'est pas nous qui décident, c'est ça.
Nous, on produit les livres qui nous sont demandés.
Exactement.
C'est des listes qui nous sont envoyées, puis on n'a pas le choix de se.
Exactement.
De se conformer. C'était la même chose quand on faisait les livres braille.
Ah oui?
Ouais.
Mais c'est ça, c'est que, d'après moi, la Grande Bibliothèque, ce qu'ils font, c'est, oui, ils prennent certaines demandes, peut-être, qui ont de leur base de clients.
C'est ça, mais ils nous la transmettent.
C'est ça. Puis, ils vont souvent avec les nouveaux livres, les gros titres qui sortent, là, les Harry Potter, les affaires comme
ça. Les best-sellers.
Best-sellers, c'est ça. Je te dirais, dans le fond, ça consiste à, bon, on commence par recevoir la commande des livres qu'on va finir par recevoir dans la semaine qui suit. Je communique avec mes lecteurs, je les prépare, je les avertis, je leur demande qu'ils me donnent leur disponibilité parce qu'il faut toujours fonctionner avec ça. On a une liste de lecteurs, puis bon, tu sais, dépendamment de telle personne a peut donner 12 heures, l'autre personne 25 heures, bon, tu sais, un nombre de pages. Un coup ça c'est fait, bien là, dès qu'on reçoit les livres, là, bon, ben il faut le préparer physiquement. Le livre, tu sais, on va le décortiquer, bon, qu'est-ce qui est dédicace, fin de la dédicace, les les citations, ces affaires-là, bon, les chapitres, les fins de chapitres. Donc, on indique dans le livre avec des petits post-it ce que le lecteur doit dire, parce qu'il y a une structure qui doit être suivie. On a des règles à suivre pour la grande bibliothèque de comment que le livre doit être structuré, ce qui doit être dit. On prépare le livre physiquement. Un coup que le livre physique est fait, on passe ensuite à la préparation de la structure, en fait, DAISY. Ça, c'est... vous êtes pas mal tous familiers avec ça, dans le fond. Ça peut être lu sur l'ordinateur, ça peut être lu avec Victor.
Oui, puis qui nous permet de naviguer là, par page, puis par section.
C'est ça. C'est ça que moi, je trouve intéressant, en fait. C'est que tu peux quand même, ça limite pas les personnes ayant une déficience visuelle de vouloir sauter, disons, parce que c'est différents niveaux. Donc, au niveau 1, tu as les titres principaux, les bibliographies, les affaires comme ça. Niveau 2, tu as les chapitres. Puis niveau 3, tu sais, bon, tout ce qui est page liminaire là, à propos de l'auteur, des affaires comme ça. Donc, les lecteurs peuvent sauter où ce qu'ils veulent. Là, tu sais, puis de page en page, puis de phrase en phrase aussi. C'est ça qui est intéressant.
Mm-hmm. Puis ça, ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on a cette possibilité-là. Là. Moi, quand je faisais mes études, c'était avec des cassettes.
Wow!
Hein? Ouais. Ça fait que des multiples cassettes, parce qu'un roman de 500 pages, ça prenait 5-6 cassettes.
Wow!
Ça qu'essaye de faire une analyse de roman en changeant de cassette à tout bout de champ.
Oh mon Dieu, il faut que tu aies la bonne cassette.
Oui, puis il faut que tu te retrouves après ça. Tu n'as plus aucun... Oui, tu peux noter que tu avais une belle citation à la page 522, mais... Mm-hmm. Faut que tu la rembobines, ta cassette, pour la retrouver, la page 522.
Oh non!
Ah oui, mais c'était comme ça.
Mais ça me fait rire parce que je me dis, l'enregistrement de ces cassettes-là, de ce que j'ai entendu dire, c'était le fait sur le bord d'un comptoir, puis avec une machine.
Ben, pas toujours, mais ça, okay. Ça pouvait,
ouais. Ouais. Mais je me souviens les cassettes. Là, c'est en train de mourir tranquillement, pas vite, là. Mais même moi, quand j'ai commencé à travailler là, ça fait un bout que c'est en train de se dissiper, mais au début, on avait encore des
beaucoup
documents.
Beaucoup de cassettes.
Oui, pas les livres.
Pas les livres de la bibliothèque.
Juste des documents gouvernementaux, des affaires de formulaire, tout ça, puis pour la RHDCC, des affaires comme ça, ça l'arrivait, là, qu'on... Ça arrive encore, mais c'est rare. J'ai donné ça, maintenant, cette charge-là, à mon collègue et ami Alexandre, M. Fulvi, si vous êtes à l'écoute. Shout-out to Mr. Fulvi.
Et M. Fulvi qui était avec nous.
Oui, c'est vrai. Oui, vous avez interviewé.
Au mois de mars, oui. Oui,
émission 7, 8.
5.
5, 5. Oui. OK. Oh, un des pionniers.
Le pionnier.
De, connaissez-vous, oui.
De
voyants, c'est
ouais,
vrai.
C'est ça.
Fait que c'est un collègue très. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui, honnêtement. Mais c'est, fait que c'est lui qui s'occupe des cassettes quand il en a maintenant. Fait que je suis super content. Il a l'air d'aimer ça, je pense. Je pense qu'il aime ça. Il aime ça, cette technologie-là.
Ben, honnêtement, je pense que ouais, ça le dérange pas.
Non, c'est ça. Mm.
Mais là, tu parlais de communiquer avec les lecteurs. Ouais. Parce que, bien sûr, c'est toi aussi qui les engage, les lecteurs. Là, oui. Qui fait les auditions, puis la formation des lecteurs. Parce que ouais. Là, un lecteur peut bien venir... passer le test de lecture, faire l'affaire, mais là, on a quand même un fonctionnement, juste le fonctionnement DAISY, c'est déjà un fonctionnement bien à nous, là, les personnes handicapées visuelles, mm-hmm. Mais c'est tout toi qui leur montres ça aussi. Là.
Oui, c'est ça. Il y a des lecteurs qui étaient déjà là quand moi je suis arrivé,
oui.
Qui ont déjà été formés, engagés avant que je sois là. De ces lecteurs-là, il en reste peut-être deux ou trois. Là. Ça, les gens, bon, c'est. Je sais pas, il y a eu. C'est parce que c'est pas toujours évident, hein, travailler travailleur autonome, lecteur. Quand on a des livres pour la grande bibliothèque, quoi, ils sont occupés là, quand même souvent. Ils ont un livre, un ou deux livres par mois. Mais il y a eu un temps, malheureusement, où c'était un peu plus mort. Là, puis on n'a pas eu de livres pendant un an et demi, je me souviens plus exactement. Puis j'en ai perdu pas mal à cause de ça. Mais c'est ça, ben, les lecteurs, c'est ça. Quand les gens ils viennent. On leur explique un peu le fonctionnement, l'idéologie de l'entreprise, les services qu'on offre, tout ça. Puis après ça, ben, je passe au travers de comment lire, les prononciations, faire attention à ça, tout ça, qu'est-ce que c'est dire, puis comment se regarder. Puis en plus, là, maintenant, un an et demi, on a changé notre méthode aussi d'enregistrement. Donc, pour les nouveaux lecteurs, ça se fait bien parce qu'ils sont pas habitués à l'ancien système.
Mm-hmm.
Mais... pour les anciens lecteurs, quand ils ont transféré on enregistrait page par page. Maintenant, ils enregistrent directement dans la structure DAISY. Donc, c'est plus simple un coup que tu sais comment faire. mais ils ont eu peur au début.
De passer de la première méthode à la nouvelle méthode.
Oui, c'est là. Ça, exactement.
Mm-hmm. Ça a été un gros changement.
Oui, exact. Mais c'est ça, les lecteurs sont... Je suis chanceux parce que j'ai beaucoup de comédiens, comédiennes, des gens qui font du théâtre. C'est vraiment intéressant. J'ai des gens qui vont interviewer bientôt aussi. Je ne sais pas si on peut
dire... Peut
non,
on
ne okay.
peut pas.
Céline Dion, Marie-Mé... Marie-Mé. Hein,
j'attends sa réponse. Oui. J'attends sa confirmation.
Mais c'est ça, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont non seulement c'est ça, dans ces domaines-là, mais qui sont vraiment très, très, très plaisants à être autour. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu moins plaisants, là. Ça, c'est comme toute chose.
Ça non plus, on ne dira pas
les noms. On dira pas les noms.
Ils sont peut-être à l'écoute aussi.
Oh non! mais, un petit fait cocasse, je vais
oui,
te dire.
Oui, oui.
Parce que, tu sais, dans le fond, c'est moi qui passe au travers des livres après ça pour faire la production. Quand on termine de lire, bon, on traite l'audio, on passe au travers de la structure. Après ça, tu sais, on fait les CD, tout ça, puis on brûle ça, puis on envoie ça au client, okay, que ça soit la bien-cue, tout ça. Donc, ça arrive souvent que j'ai des lecteurs, des lectrices qui vont faire des erreurs. Puis là, t'es averti, puis là, ils continuent à faire les mêmes erreurs. T'es averti 2-3 fois, puis demande tu te tannes. Puis, moi, je suis chanceux, j'ai mon bureau maintenant. Donc, je peux me permettre de dire des petits mots sacrés, puis crier, puis des fois, c'est assez intense. Je pense que des fois, je suis au sous-sol, là, puis je pense qu'en haut, au premier étage, ils m'entendent. Justement, Alexandre est descendu me voir, il m'a dit « Hey, c'est toi qui as crié, je suis en haut, c'est en béton, puis on m'entend. »
Oui, ça devait être vraiment quand même une grosse erreur que la personne a faite pour nécessiter une réaction comme
telle. Ah oui, écoute, parce que, tu sais, c'est que t'as déjà... On était 3 dans le département audio avant. Il y avait Vincent, il y avait Eric, puis il y avait moi, puis on débordait déjà. Là, maintenant, je suis rendu seul. Donc, je peux plus vraiment me permettre de toujours avoir des bâtons dans les roues. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de développer une technique, d'expliquer aux lecteurs, aux lectrices, quand il y a des choses qui arrivent, bon, je leur dis quoi faire pour éviter les erreurs. Puis, quand ils continuent d'en faire, t'as beau les avertir. À un moment donné, t'es épuisé parce que ça te ralentit dans toutes les autres affaires que tu finis par être en retard puis tout ça. Puis c'est important, c'est quelque chose de sérieux. Ça s'envoie à des clients, ça s'envoie à la grande bibliothèque, c'est là pour des dizaines, 10 000 ans. Donc il faut que ça soit vraiment top-notch. Mais le cas farfelu, c'est que ça a déjà arrivé que, tu sais, bon, à l'écran, j'ai le livre de la personne qui l'a lu. Je suis en train de passer au travail, je trouve 2, 3, 4, 5 erreurs, je sacre, tabarouette. Maudit ci, puis maudit ça, puis la personne, elle rentre dans le bureau, puis elle dit « Est-ce que t'es en train de parler de moi, coudonc? » Puis là, ben, c'est son livre que j'étais en train de monter, donc la personne entend sa voix, puis c'est comme... C'est un peu inconfortable, mais ça fait passer le message. C'était involontaire, mais...
Le message n'a pas eu le choix de passer.
C'est ça, exactement. Donc, faut faire attention. Faut garder tous ses moyens, même quand que c'est pas toujours facile.
Tu sais que ça fait déjà 45 minutes qu'on
parle. Oh wow, ouais, uh-huh. ça va vite.
On va finir la première partie.
Oui.
Si jamais je lance ça comme ça, mm-hmm. là, je ne veux pas créer un monstre, là. Mais si jamais il y a des gens à l'écoute qui pensent qu'ils pourraient être capables de lire,
oui.
Est-ce qu'il y a moyen de communiquer? Est-ce que tu es encore à la recherche
oui.
de gens?
Oui, on est toujours en la recherche permanente de lecteurs, lectrices, en français, en anglais. Là, ces temps-ci, on va recommencer à avoir des documents là, académiques anglais. Donc, s'il y a des gens qui connaissent ou vous êtes lecteur vous-même anglophone, mais aussi francophone, vous pouvez envoyer vos informations. Si je ne me trompe pas, c'est CV pour curriculum vitae à commercial.parpoint.com. Puis c'est point.com. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est cv.com. Puis ils mettent dans l'objet que vous êtes intéressé pour de la narration. Oui, effectivement.
Voilà. Donc, on va faire la pause. Puis moi, j'ai 2-3 petites choses à dire après.
OK.
Et puis, je suis sûr que toi aussi.
OK.
Parce que je pense que t'es plus gêné. Hein?
Ouais. Ça a passé vite, hein, Seigneur.
Quand même. Alors, on fait les petits messages, puis on revient tout de suite après avec notre invité, Stéphane Pilon. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires concernant l'émission. Le moyen le plus simple, c'est en passant par le site internet à l'adresse www.martinchouinard.com. Par contre, je vous rappelle que les émissions sont toujours disponibles sur Facebook et c'est-à-dire que je partage les liens sur Facebook et que les émissions sont toujours disponibles par ma chaîne sur YouTube. Aujourd'hui, mon annonce, c'est une offre d'emploi. Recherche d'un agent des technologies de l'information et de la communication. L'Association des sports pour aveugles de Montréal, ASAM, organisme à but non lucratif, a pour mission d'offrir des activités sportives et de plein air à ses membres atteints de déficience visuelle grâce à la collaboration de bénévoles formés. L'organisme est à la recherche d'une candidate pour occuper le poste d'agent des technologies de l'information et de la communication. Le poste est d'une durée de 10 semaines durant la période estivale de 2017. Le candidat se verra confier les tâches suivantes. Collaborer au projet de refonte du site internet de l'organisme en vue de le moderniser et d'accroître son accessibilité. Collaborer au projet de refonte des bases de données de l'organisme, collaborer au projet de refonte du compte Facebook de l'organisme, alimenter le compte Facebook et gérer la communauté, se familiariser avec les logiciels d'adaptation Jazz et ZoomText, participer à l'élaboration de la capsule FAQ, foire aux questions, sur le site Internet pour chaque activité offerte par la SAM. Participer au développement d'une pochette d'outils promotionnels. Participer aux réunions du comité de supervision responsable du projet de refonte du site Internet des bases de données et du compte Facebook. Qualification requise. Être aux études à temps plein au niveau collégial ou universitaire dans le domaine des technologies de l'information ou un domaine connexe, avoir une bonne maîtrise de la langue française, orale et écrite, avoir le sens de l'organisation, démontrer une aptitude à travailler dans un milieu communautaire avec une clientèle en déficience visuelle, être bilingue un atout. Le candidat relèvera du comité responsable du projet de refonte du site Internet des bases de données et du compte Facebook. Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'ASAM au plus tard le 29 mai 2017 à l'adresse courriel info@asam.ca. Bon, je comprends là que si vous écoutez l'émission à sa mise en onde le 26 mai, ça vous donne pas beaucoup de temps, mais moi, ce que je vous conseille, même si la date est un peu dépassée, c'est de quand même envoyer votre curriculum vitae. On ne sait jamais. Maintenant, je vous parle de l'émission numéro 14 qui sera mise en ligne le vendredi 2 juin. Et mon invité s'appelle Christine Laplante, une demoiselle très intéressante avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'entrevue et qui nous a expliqué parmi beaucoup d'autres choses comment elle a vécu son transfert de l'école adaptée à la polyvalente régulière, particulièrement pendant le premier mois.
Ah oh ouais, ça a été vraiment long, je le retournage en toilette.
Ah oui, jusqu'à ce point-là? Ah,
à ce point-là, oui. Je voulais absolument retourner là, je m'ennuyais de mes amis. Mais mes amis, là, elles avaient toutes intégré l'école secondaire normale. Fait qu'il en restait plus gros, là.
Y avoir retourné, ça aurait été...
Ça aurait été une grande erreur, je crois. Mais c'est sûr qu'à cet âge-là, j'aurais dit non, c'est le meilleur choix, mais maintenant, aujourd'hui, je dis non, ça aurait été la pire erreur.
Pour l'intégralité de l'émission avec Christine Laplante, je vous convie, comme à l'habitude, à partir du vendredi 2 juin 2017, sur nos différentes plateformes. En attendant, nous retournons à l'invité de cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Stéphane Pilon. Stéphane?
Oui!
Je pensais que tu étais bien loin, mais tu es juste à côté
de moi. Ben oui!
Allez, il est 10h du soir, on est fatigué. C'est rare que je dis que je fais des références à l'heure, là, mais alors, on a eu une très grosse soirée. Parce que d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire avant que.
Ah oui.
C'est qu'on on a filmé un petit peu le pour faire comme une espèce de.
Behind the scenes.
Oui, des coulisses de Connaissez-vous. Et on va vous le publier quelque part pendant l'été, pendant la pause de diffusion. Et on a travaillé très fort. Ben, surtout Stéphane. et c'est ça, on a fait des scènes à l'extérieur. Puis, je vais faire un lien. C'est que toi, Stéphane, toi, tu travailles très fort de la tête.
Oui.
Et des fois, tu as besoin de t'évader.
Oui.
Et là, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du plein air, tu fais du camping, tu fais... Moi, je sais que tu as toujours hâte que le beau temps arrive pour partir des fins de semaine de camping.
Oui, oui. J'ai la chance de... C'est ça, c'est... Il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller dans la nature. C'est le fun d'être entouré de gens, tout ça, mais tiens, on sait, tout le monde est pressé, tout le monde est tanné, ça klaxonne... Les voisins, la musique, tout ça. Fait que pour moi, de me retrouver dans la nature avec rien autour de moi que des arbres, puis les oiseaux, les ruisseaux, puis des bonnes grandes marches en forêt, ça me fait vraiment du bien. Puis, c'est ça, quand l'été vient, là, j'aime bien ça, aller passer des fins de semaine. Puis, j'ai la chance d'avoir un ami, Vincent, que je salue. Mais,
bonjour Vincent.
Bonjour Vincent. c'est ça, grâce à lui, parce qu'il connaît tous les coins partout au Québec, au Canada. J'ai pas sorti encore dans les grosses places, comme des montagnes, tout ça encore, peut-être cet été. Mais il m'a fait connaître pas mal de coins, là, Schwagin, le Sentier National, le Pont Suspendu, des places comme ça. Puis j'ai la piqûre, là, tu sais, c'est de te retrouver sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau, puis faire un feu de camp, puis après ça, te coucher dans ton hamac ou dans une tente, il n'y a rien mieux que ça. Mais je pense que toi aussi, j'ai essayé quelquefois de t'amener faire du camping, mais...
Ça, là, c'est pas gagné d'avance.
Mais vous en faites, vous aussi, des activités plein air, si je me trompe pas.
Oui, ben on fait de la randonnée, on fait du vélo, du tandem.
Avec
la SAM, l'Association des sports pour aveugles de Montréal.
Mm-hmm.
Et eux autres, ils en organisent des fois des fins de semaine de camping.
Ah oui?
Tout ça. Ils avaient fait l'été passé là, dans les tipis. Là, tu sais,
je t'avais montré. Ah oui, les tipis. T'avais-tu été?
Non.
Ah.
Ils n'ont pas réussi à m'amener là.
Convainc.
Non. Mais, encore un autre lien, ouais. C'est que des non-voyants peuvent le faire. Là. Mm-hmm. Ça se fait quand même. Là. Ça demande un peu d'équipement quand même.
Okay.
Mais... Ben, tu le sais.
Oui, oui.
qu'est-ce que tu dirais que ça prend, mettons, quelqu'un, là, qui a rien, puis qui voudrait, là, essayer, peut-être, là, tu sais, voir.
Ben, ça dépend exactement quoi. T'es pas obligé. C'est sûr que, surtout dans ce domaine-là, tu peux te dépanner avec des affaires que t'achètes au Canadian Tire, là, mais ça fait son temps. Le dicton qui dit « t'as pour ce que tu payes », c'est vraiment vrai pour qu'est-ce qui est l'équipement pour le plein air, de mon expérience. Parce que, évidemment, tu commences, tu veux pas trop mettre d'argent, tout ça. Mais ça dépend de l'activité. Pour, disons, la randonnée en forêt, les souliers de randonnée, c'est super important. Moi, j'avais commencé au début, j'avais pas vraiment de souliers. C'est les souliers de tous les jours que je mets. Puis, ça le fait quand même la job. Mais quand tu marches un 4, 5, 6 heures de temps à monter des roches, tout ça... Ça paraît. Donc, des souliers, c'est super important. Souvent, il y a des grands spéciaux en début de saison, puis en fin de saison, dans les magasins de plein air comme Sell ou Mec, des affaires comme ça. Ça, c'est important. Puis, disons, pour la randonnée, un sac à dos, beaucoup d'eau, la nourriture pour garder les calories que tu brûles quand même assez rapidement. Si possible, là, c'est ça, ça dépend de la circonstance, mais de... Moi, j'aime ça le faire tout seul, mais c'est vraiment suggéré d'être tout le temps accompagné de quelqu'un parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux glisser, tu peux te blesser, puis là, ben ça peut devenir dangereux. Sinon, pour qu'est-ce qui est camping, tout ça...
Mais juste pour la marche, là,
oui?
Est-ce que les bâtons de marche, c'est bon, ça?
Oui, bien ça, je te dirais, je commence tout juste avec ça. Puis okay. Ça, c'est une autre anecdote, je pourrais te dire. J'ai jamais utilisé de bâton de marche du tout.
Okay.
Mes camarades, ils en ont jamais eu non plus, donc j'ai jamais été comme tenté à m'en procurer.
Okay.
Mais quand je suis... Tu as montré à quel point que j'aime le plein air. Quand je suis pas en train de faire du plein air... Puis j'étais à la maison, au lieu d'écouter des émissions de TV, là, 4,5 ou.
4,5.
Je sais pas c'est quoi les émissions qui jouent de ces temps-ci. Les trois frères, là.
Ouais.
Les petites prairies d'en haut, ou. C'est quoi donc? C'est quoi les émissions de nos jours?
Non,
c'est quoi que les jeunes écoutent de nos jours?
Non, écoute plus ça à la télé, moi.
Non?
Mais non.
Watatatan, ça existe.
Watatatan,
ça existe encore? Oh,
Stéphane, comment? Ok, excusez, là, on est en 1990.
Mais c'est ça, c'est que moi.
Ouais, tata.
C'est ça, c'est qu'au lieu d'écouter des émissions de TV, je vais souvent écouter sur YouTube des vidéos de gens qui font justement des randonnées, du camping comme ça. Ça me met dans le mood, si tu veux, de la nature pendant que je suis à la maison, puis ça me prépare mentalement pour quand la fin de semaine arrive. Puis je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais oh oui, c'est ça, c'est dans ces vidéos-là, il y a bien des gens qui ont des bâtons de marche.
OK.
Puis, oui, c'est un fait, c'est vraiment... C'est différent, la marche avec des bâtons. Puis, je te dirais que c'est surtout important d'avoir des bâtons quand on descend, quand on revient ou peu importe sur notre chemin, si on descend à piquement, parce que c'est sur les genoux, c'est tous les genoux qui prennent l'impact. Alors que si tu as les bâtons, tu viens comme un, je sais pas, comme un singe, si tu veux, là, ça l'extend tes bras. Donc tu peux absorber une partie de la pesanteur. Je pense que c'est jusqu'à 40% de ton poids sur les bâtons. Donc au lieu que ce soit les genoux directement qui prennent le coup, les bâtons, ça peut aider vraiment beaucoup. Mais là, c'est là que c'est important. C'est l'expérience personnelle. J'avais été, je me souviens pas, le magasin de plein air, là, pour pas le nommer, je me souviens pas, anyway, c'est quoi.
Ouais.
J'ai acheté, écoute, parce que t'as des bâtons en qui sont les moins chers, c'est en gros métal, tu sais, dur, en stainless steel, là, ça pèse une tonne. Puis quand tu vas faire de la marche, tu veux être le plus léger possible, parce que chaque demi-livre fait la différence au bout de 6 heures de marche. Donc, je voulais pas m'acheter les gros pesants. Donc, c'est en fibre de carbone, quelque chose comme ça. Tu sais, les affaires qu'il y a sur les chars sport, ça pèse rien, puis c'est supposé être solide comme un tank. J'ai acheté la marque Maison de cette place-là, qui est en spécial. Ma première randonnée, j'ai bêché, oui. J'ai descendu une roche. La roche était plate, c'était en angle. Puis j'ai mis le bâton. Le bâton, il a carrément, avec mon poids, brisé en deux. J'ai revolé, je me suis raflé. Là, rien de grave, là, mais je me suis raflé le genou et tout ça. Puis,
fait que la raison pour laquelle tu as acheté ça, ça a fait en sorte que tu t'es...
Que je me blesse.
C'est toi qui s'est blessé,
c'est ça.
Qui a brisé les bâtons.
Exact. Fait que là, tu pourrais dire, si j'aurais pas eu les bâtons, je m'aurais pas blessé. Mais peut-être que ça m'a quand même permis de moins me blesser,
d'amortir,
je sais pas.
Peut-être un peu.
C'est ça. Mais là, depuis ce jour-là... J'ai pas abandonné l'idée des bâtons. J'ai retourné au magasin. Ils ont au moins été assez gentils de me rembourser. Puis j'ai pris de quoi de vraiment de meilleure qualité. Là. Pas une affaire de fou, mais juste un petit... De quoi de connu. Là.
OK, mais là, ouais. T'en as acheté d'autres.
Ouais.
Mais tu les as-tu utilisés quelquefois?
Non, pas encore. C'était vers la fin de la saison.
D'accord. Mm-hmm. D'accord. Là, tu disais tu t'en allais te diriger vers le camping. Là,
puis, oui.
OK.
Ben camping, pour faire ça rapidement, dans le fond, c'est ça, t'as beaucoup de... Ce qui est important, bon, le chasse moustique, ça aussi pour la randonnée, c'est important,
oui.
Mais surtout pour le camping, parce que tu restes immobile la majorité de ton temps autour du feu ou sur le campement. Chasse moustique, c'est super important, muscoles, tu sais, des affaires comme ça, parce que les chandelles de... Ça, c'est une autre histoire, rapidement. quand j'étais un peu plus jeune, avec mon ancienne copine, on descendait souvent au Nouveau-Brunswick. Puis là-bas, là, Nouveau-Brunswick, les maringouins sont 10 fois la grosseur. J'exagère même pas. 10 fois la grosseur des maringouins qu'on a ici. Puis la première année avant qu'on part, des copains de mon ancienne copine avaient dit « Le truc, c'est de mettre... comment t'appelles ça, le rince-bouche, là? »
Scope?
Ouais, du Listerine, ah, quelque du chose
Listerine,
comme ça.
Okay.
Ouais, c'est ça, à la menthe, je sais pas trop quoi. Puis il dit « Mettre ça, tu vois, ça va fonctionner. » Fait que quand on est arrivé sur place, on en a mis. Puis je pense que c'était une blague parce que...
ça les attirait.
Ça les... ça les attirait. C'était un lunch gratis, un buffet à volonté.
À volonté.
Oui. Donc, non, c'est à moins qu'il y ait peut-être une sorte qui fonctionne, puis nous, on ne s'est juste pas donné. Mais c'est ça, chasse moustique. Qu'est-ce qui concerne l'équipement? Ah, pour le feu, ça, c'est important. Des fois, on arrive sur place, puis on n'est pas au courant, là. Mais c'est important que pour le feu, il y a des gens qui veulent économiser de l'argent, puis ils vont emmener leur propre bois sur les terrains de camping. Ça, c'est important de vérifier avec les lieux si ça peut se faire.
Si vous avez le droit
de c'est le faire. C'est ça. Parce que c'est pas le fait qu'ils veulent vous vendre du bois pour faire de l'argent, c'est le fait qu'il peut y avoir des certaines bactéries dans ce bois-là, que si tu l'amènes dans ce secteur-là, ça peut contaminer
le secteur.
C'est ça. Donc, c'est important de faire attention, puis de vérifier si ça peut se faire. Sinon, si vous voulez être sûr, c'est vraiment d'acheter du bois localement dans ce coin-là. Il y a aussi les feux. Il y a certains moments de la saison où c'est trop chaud, c'est trop sec. Donc, on peut pas faire de feu, c'est ça. Mm-hmm. On peut se renseigner là-dessus aussi. Sinon, pour l'équipement, rapidement, on peut faire de la cuisine sur le feu en tant que tel. Mais sinon, d'acheter des petits brûleurs là, avec des petits chaudrons... c'est bon, si c'est du camping voiturage, si on veut, ou est-ce que la voiture n'est pas loin, ben là, on peut avoir des plus gros poêles, tout ça, là, au gaz. Mais sinon, ils s'en vendent des tout petits, là, avec des petites canisses de gaz, tout ça. Pour ce qui est des tentes, ce qui est important, c'est que tu peux t'acheter une tente de moins bonne qualité, disons, chez les magasins comme Walmart à 35$, si tu veux. Mais ce qui arrive, c'est que s'il pleut, c'est sûr que l'eau passe au travers.
Parce ça va prendre l'eau.
C'est ça, le matériel, il est trop de mauvaise qualité. Tu peux combattre ça avec une bâche. Si tu mets une bâche, je ne sais pas comment on dit ça.
Je ne sais pas.
Une tarp, là. C'est un genre de toile en genre de plastique. Si tu attaches ça au-dessus, là, tu te sauves. C'est ça.
OK.
Puis l'autre affaire aussi, si vous êtes dans une tente, c'est les matelas gonflables. C'est vraiment important d'avoir de quoi... C'est pas obligé d'être un gros matelas comme qu'on a quand on a des invités, disons, à la maison, là. Mais d'avoir de quoi qui est assez solide, qui, non seulement pour le dos, tout ça, puis ça sépare du sol pour pas avoir mal au dos le lendemain, mais aussi parce que c'est bien beau être l'été, mais si votre matelas n'est pas assez surélevé de la terre, c'est que vous faites une connexion directement avec le sol, ça dissipe de la chaleur, puis là, mais c'est ça, le matin, tu te réveilles, t'as mal au dos, t'as pogné un coup de froid, puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Toujours la nourriture, c'est ça, faire attention, dépendamment où ce que vous allez camper, les ours, tout ça, là, t'sais, bon, là, nous, on est des coins parce qu'il n'y a pas vraiment d'ours, mais il faut faire attention parce qu'il y a des ratons laveurs, il y a les écureuils. Ça, c'est d'autres histoires qu'on pourrait se compter, je pense que je t'avais compté, là, à un moment donné. Il y a eu une fois où ce que j'avais été camper avec ma copine que j'ai présentement. On avait été sur un terrain, puis où ce que c'était situé, c'était un peu dur. Il n'y avait pas de poubelle à proximité, donc nos déchets, on l'avait mis dans un sac, puis on a juste oublié, on l'avait laissé en dessous de la table de pique-nique. Puis un coup rendu dans la tente, à moitié endormi, ma copine me dit, on a-tu été porter le sac de poubelle? Je dis, ah, je sais pas, en tout cas, pas grave. Puis là, en plein milieu de la nuit, t'entends ça, là. Tu sais, là, je sais pas faire le bruit. Là. T'entends ça, un sac, là, tu sais, se déchirer. Puis... En tout cas, écoute, j'étais là, pish, pish, tu sais, pour... je sais pas trop c'était quoi. Puis moi, ben, comme je te dis, j'ai besoin de verre de contact, je vois pas. Puis là, rendu dans la tente, j'ai plus mes verres de contact. Fait que là, l'animal voulait pas partir. Puis là, t'entendais qu'il avait réussi à vraiment passer à travers du sac. Puis tu commençais à entendre les affaires sorties du sac. Écoute, j'ai sorti le dézippé la tente. J'étais en bobette, tu sais. Fait que là, j'ai pris une botte de pluie qu'il y avait à côté. Je l'ai pitché vers la table. Écoutez, faire une histoire courte, c'est un méga gros raton laveur, là, gros comme un chien, là. Puis là, c'est quand que c'est... Ça marche un peu comme un peu bizarre, ça, là. C'est quand qu'il s'est venu vers moi, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller, il fallait qu'il passe par ma tente. J'ai eu la chienne de ma vie, là. Tu sais, genre, c'est peur, ça n'a pas pris de temps, puis... Donc, la morale de l'histoire, c'est important, vos déchets, de garder ça dans des endroits, elle est faite à cet effet. La nourriture, le remettre dans des canisses, dans les véhicules, tout ça. Donc ça, c'est important. Puis surtout quand vous allez dans des endroits où il y a des animaux plus comme des ours, des affaires comme ça, ça peut être dangereux. Donc oui.
C'est pas drôle.
Mais j'ai quasiment laissé ma vie.
Ouais, mais là, c'est toi qui fais du camping sauvage, ben oui, hein? Ben c'est oui, pas moi, certain. Puis toi, en plus, c'est que... je pense que c'est important de le dire. Si t'as pas personne qui veut t'accompagner, tu y vas seul.
Ouais.
Ça fait que...
C'est épeurant. Je vais être honnête avec toi. C'est vraiment épeurant parce que il fait noir, hein? Le soir, il y a plus rien.
Il y a plus de lumière,
il y a plus de lumière du tout.
Dans la forêt.
Exact. Là. Puis des sons...
Il y en a.
Donc, quand t'es couché puis t'entends des affaires qui se promènent autour de toi, autour de ta tente, tu sais pas si c'est des humains, tu sais pas si c'est un ours, tu sais pas si c'est un loup ou que c'est juste des petits ratons laveurs, ça fait peur. Des fois, c'est... Pas un cœur solide.
Voilà. Hey, écoute, yes. On va retourner vers la musique parce que, bon, le camping, toi, tu fais pas de camping l'hiver. Là, ça fait que, tandis que la musique, ça, c'est à l'année.
À l'année, ouais.
Mm-hmm. Et puis, je pense pas que beaucoup de gens le savent, mais c'est toi qui as fait la musique de Connaissez-vous?
Oui, c'est vrai, oui.
Oui, c'est vrai, certain. Stéphane, c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet.
Du projet du podcast, Connaissez-vous, ouais.
Qui m'a encouragé, puis qui... Moi, j'avais dit, je veux être le plus autonome possible dans le projet.
Mm-hmm.
Puis là, Stéphane, il m'avait encouragé, mais il m'avait dit, je peux t'aider, puis tout ça, puis... Il m'aide énormément. Je sais que Connaissez-vous serait pas ce que c'est aujourd'hui sans Stéphane.
Mon Dieu, ça fait plaisir.
Et mais tu ne composes pas que des musiques de 15 secondes là. Non,
c'est ça. J'ai depuis mon enfance là, je te dirais que les peu de temps que j'ai eu accès à des pianos quand j'étais jeune jusqu'au moment où je m'étais acheté mon premier clavier usagé, si tu veux là, j'ai composé pas mal quelques tunes, là, tu sais, des petits trucs ici et là. Pour des amis aussi, là, j'ai quelques projets que je travaille présentement avec des amis proches pour des chansons, des vidéoclips, tout ça. Donc,
c'est ça, t'enregistres des bands en spectacle. Y a beaucoup de choses qui t'intéressent. Là.
Oui, effectivement.
La production, là, juste le petit vidéo que je vous parlais tantôt qu'on fait pour Connaissez-vous... tu tripais, là, tu dis, on va
la
caméra, puis on va déplacer ça, puis
placer ça. Ah oui, je me suis mis à terre sur le trottoir, avoir un plan, où vous allez le voir dans la vidéo, là, je révélerai pas trop tout, là,
oui.
Mais il y a un plan où ce qu'on voit Martin s'en venir, puis avec l'effet de flouter, ça se dit-tu, ou l'effet de... En tout cas, donc j'étais carrément étendu à terre sur le trottoir avec la caméra, Martin s'en venait vers moi, il y a une voiture qui a passé avec deux gars dedans, puis le gars, il avait vraiment l'air de se dire « qu'est-ce qui se passe? » Puis son ami dans le véhicule, il a juste levé la main, il a dit « pose pas de questions ici, ça, tout est possible. » En tout cas, ouais. Fait que oui, je suis assez passionné de ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les projets pour mes copains, j'essaie de toucher à tout. J'aime la musique, puis tout ce qui est, ben en fond, audiovisuel. Donc, la musique, le son, le vidéo, la 3D aussi. Je fais des animations 3D, des trucs comme ça, des effets visuels pour enrichir, mettons, des vidéoclips, des choses comme ça. Tu sais, ça peut être intéressant aussi. Là. Pas mal passionné de tout ce qui est ça.
Puis le site Internet de Connaissez-vous aussi.
Oui,
c'est
oui.
C'est Stéphane qui l'a fait.
Mm-hmm.
Et je n'ai eu que de bons commentaires.
Ah, super.
Écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter?
Oui, ben dans le fond, pour la musique, peut-être passer un message rapidement. S'il y en a qui sont intéressés, disons, moi ça m'arrive, peut-être là je suis pas mal occupé avec Point par Point, puis avec mes projets personnels, puis d'amis, mais une fois de temps en temps, ça arrive, disons, je te dirais une fois par mois et demi. J'aime ça travailler sur des nouveaux projets, donc s'il y en a parmi certains de tes auditeurs, auditrices, qui est musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, qui aimerait... s'enregistrer, avoir de l'accompagnement aussi, parce que je peux faire du piano, la batterie, la basse, tout ça, rajouter, faire un genre d'accompagnement pour, disons, quelqu'un qui fait juste chanter, par exemple, ou s'ils sont intéressés peut-être à communiquer avec moi, moi, je peux écouter, auditionner rapidement quelque chose, je peux prendre contact avec ces personnes-là, mais on sait jamais, j'aime ça, assez de travailler sur des projets comme ça, là, si les gens sont intéressés à s'essayer, je ne charge pas rien. Là. J'accepte un projet là, une fois par mois et demi. Si vous sentez la musique dans l'âme de communiquer avec moi, ça va me faire plaisir.
Et c'est sûr qu'il doit y en avoir parce que la musique, c'est quand même aussi quelque chose qui est accessible mm-hmm. pour les personnes non-voyantes.
Bon, on le disait au début de l'émission, c'est comme un langage universel.
Universel, puis, oui.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Est-ce, qu'il y a un moyen pour te joindre? Comment qu'on...
Oui, dans le fond, ben c'est ça, là, mon site, par le temps que l'émission va être diffusée, je vais avoir fait une section, disons, adaptée, si tu veux, plus accessible pour les personnes ayant déficience visuelle. Vous allez à accès sans accent, .papillonsonic.com. Puis, il va y avoir une place là, pour m'envoyer un courriel, puis vous pouvez communiquer, puis je vais recommuniquer avec vous dans les plus brefs délais.
Ben Stéphane, oui? Moi, je te remercie vraiment beaucoup.
Ben, merci.
Ça a été une très belle entrevue, très intéressante, très émouvante, puis très instructive par la même occasion. Mm-hmm. Et c'est des gens comme toi, que des gens qui n'ont pas de problème de vision, qui ont un lien avec les personnes, qui ont une sensibilité, une générosité. Stéphane, c'est une des personnes les plus généreuses que je connaisse.
Oh mon Dieu.
Puis je pense même qu'il vous en a fait la preuve.
Alors, j'ai jugé. Ben merci, merci.
Merci beaucoup, Stéphane.
Plaisir.
Et puis, communiquez avec lui si vous avez des projets à lui proposer, des questions, n'importe quoi. Vous pouvez communiquer avec nous aussi pour l'émission. Et je vous remercie à tous. Et puis, à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. Je suis déstabilisé encore une fois, mesdames et messieurs. Mais ça a été un plaisir immense de vous parler à chaque semaine.